Fils dans, parmi nous et dans ce lieu. Nous allons, dans quelques instants, ouvrir la Bible. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, Jésus nous a enseigné que ce qui compte dans une maison, pour qu'elle soit solide et qu'elle ne s'écroule pas, ce sont ses fondations. Alors, elle ne se voit pas forcément, mais ça a son importance. Jésus a parlé d'une maison bâtie sur le roc et d'une maison bâtie sur le sable. Alors, on peut peut-être bâtir une très belle maison sur le sable, ça peut même peut-être aller plus vite, mais ça ne durera pas longtemps. Et Jésus nous a dit que la maison bâtie sur le roc, qui peut résister aux tempêtes, aux difficultés de la vie, c'est une vie qui écoute ce que Jésus a dit et qui obéit à ce qu'il a pu dire. Alors, nous allons nous entretenir ce matin sur le fondement, la priorité de la parole de Dieu et notamment de l'Écriture. J'ai intitulé mon message « Revenir à l'Écriture ». Alors, bien sûr, des gens peuvent dire « Mais Dieu parle en dehors de la Bible, il peut donner des visions, il peut y avoir des prophéties, il peut… » etc. Mais bien sûr que Dieu parle de différentes façons. Mais avant tout, sa parole, c'est l'Écriture. Parce que beaucoup de gens peuvent dire le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a parlé. Mais en fait, c'est quand même sujet à la subjectivité de la personne. Et même nous, nous pouvons nous tromper. Et Paul dira aux Galates, quand bien même un ange vous apparaîtrait, vous donnerait un autre évangile. Et il dit, il continue, il dit, même si moi, moi apôtre, même si moi-même je vous donne un autre évangile, ben, considérez que nous soyons anathèmes. Parce qu'il n'y a aucune révélation, il n'y a aucune parole de Dieu que l'on peut mettre sur le même pied d'égalité que l'Écriture. Donald G., qui était un des pères du pentecôtisme en Europe, a écrit « Puissance et sagesse ». C'est un livre qui date, ça fait des dizaines d'années qu'il l'a écrit. Mais déjà à l'époque, il avait certainement cette intuition, il disait que le grand danger pour les églises dans l'avenir, ce serait qu'elle cherche davantage la puissance que la parole de Dieu, que la sagesse. Et nous sommes en plus dans une société qui s'est américanisée, qui est de plus en plus portée vers l'expérience, le sensationnel, le spectaculaire. Et il faut que nous fassions attention parce que ce qui nous a sauvés, c'est la vérité. Et c'est l'amour de la vérité qui nous permettra d'être sauvés jusqu'au bout. Il faut que nous recherchions, plutôt que des expériences, la vérité de la parole de Dieu. Alors, ma première réflexion, ça sera l'esprit et l'écriture. Pourquoi ? Parce que souvent on parle de l'esprit, et parfois, l'on dit de l'écriture que c'est un peu la mort, l'écriture. Que c'est un petit peu quelque chose de dépassé, qu'il nous faut davantage vivre dans l'esprit. Mais c'est une grande erreur que de mettre dos à dos le Saint-Esprit et l'écriture. Ce qui a fait la force des églises de Pentecôte d'autrefois, ça a été justement que les frères ont cessé de dire et de répéter que l'Esprit, c'est la parole. Que l'Esprit ne contredira jamais la parole de Dieu, l'Écriture. Et que les deux vont ensemble. Alors, on lit ensemble dans le livre des Actes des Apôtres que l'Écriture, c'est la voix de l'Esprit. Alors, Actes chapitre 1er, verset 16. Actes chapitre 1er. Verset 16. Actes, chapitre 1er, verset 16. Alors, c'est une prédication, il n'y a pas beaucoup, enfin, c'est un discours adressé aux autres disciples, il n'y a pas beaucoup de discours ou de prédications, elle viendra après, mais dans le peu qu'il y a, eh bien, l'Écriture a toute sa place. Actes, chapitre 1er, verset 16. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc pour l'homme de Dieu, le Saint-Esprit ne s'oppose pas à l'Écriture. L'Écriture, c'est la voix du Saint-Esprit. Hein, vous l'avez lu avec moi ? Ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé. Donc, quand nous lisons l'Écriture, nous lisons les paroles du Saint-Esprit. Et si vous voulez dire, j'aimerais bien que Dieu me parle, j'aimerais bien entendre la voix du Saint-Esprit, eh bien, tout simplement, lisez la Bible. Et vous entendrez la voix du Saint-Esprit. On continue dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 24 et 25. Chapitre 4, versets 24 et 25. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, donc c'est une prière collective mais résumée en fait ici, hein, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, et c'est une citation du psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ? » Alors c'est la même chose, le psaume 2, bien, c'est ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ce que le Seigneur a dit par le Saint-Esprit avec la bouche de David. Voyez bien ? Il ne faut pas opposer l'Écriture et la vie du Saint-Esprit. L'Écriture est pleine de l'Esprit. Un dernier passage, chapitre 28, versets 25 à 27. Chapitre 28, hein, c'est le dernier chapitre. Chapitre 28, versets 25 à 27. Voilà ce qui est dit. Alors là, c'est Paul qui exerce son ministère et qui discutait avec les Juifs sur l'Écriture et le fait que Jésus soit le Messie, acte 28-25. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots, « C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple, et là c'est une citation d'Ésaïe, et dit, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Là aussi, pour l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit qui a parlé par le prophète Ésaïe. Voilà trois passages dans lesquels, très clairement, nous avons lu et vérifié que pour les hommes de Dieu et pour l'Église qui priait, l'Écriture, c'était ce que disait le Saint-Esprit. Amen. Pour nous, la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Donc on ne peut pas dire « le Saint-Esprit m'a dit » et que la Bible nous dise autre chose. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire « le Seigneur m'a parlé » et que la Bible dise autre chose que ce que le Seigneur nous a dit. Ça, ce n'est pas possible. Et si la Bible, c'est la voix de l'Esprit, alors elle a toute autorité dans notre vie. Amen. Obéir à l'Écriture, c'est obéir au Saint-Esprit, c'est obéir au Seigneur, c'est obéir à Dieu. Alors, l'Écriture, c'est une parole vivante. Donc, dire que l'Écriture, ce serait quelque chose de sec ou de desséchant, c'est faux, parce que la Bible, elle est parole vivante. On le lit cela, dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 22 à 25. 1 Pierre, chapitre 1er. Venez avec votre Bible, surtout, aux réunions. Si vous n'en avez pas, nous vous en offrons une. Quelle grâce d'offrir la parole de Dieu. Et il est bon de lire ensemble. Quand il est écrit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, c'est Paul qui le dit à Timothée, eh bien c'était pour vouloir dire la lecture publique. Parce que les premiers chrétiens n'avaient pas de Bible. C'était réservé à quelques-uns seulement d'avoir à l'époque des manuscrits. Alors on lisait beaucoup dans les réunions. Alors parfois je me suis dit, ben aujourd'hui tout le monde a la Bible. Mais cette semaine j'ai lu un frère qui disait, au fond aujourd'hui on a beaucoup de Bible, mais on n'a pas beaucoup de chrétiens qui lisent leur Bible. Et que c'est peut-être tout autant important aujourd'hui de lire l'Écriture dans les réunions comme à la première Église. C'est pour cela que lorsque je partage la parole avec vous, j'aime prendre bien des textes et que nous lisions ensemble l'Écriture. Parce qu'il y a ce que je dis, mais je suis persuadé que ce que vous lirez de l'Écriture vous fera grand bien, parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Chapitre 1er, donc verset 22, il est dit ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, alors c'est quoi cette parole de Dieu qui est vivante, permanente, qui régénère? Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Par l'Évangile, c'est un mot ici qui veut dire la doctrine du Nouveau Testament, la doctrine de la Nouvelle Alliance, qui est maintenant relatée dans la seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament est parole vivante, permanente et régénératrice. Nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Je ne crois pas à la nouvelle naissance sans l'action de la parole de Dieu. Il peut y avoir parfois des conversions émotives, mais s'il n'y a pas le travail de la parole de Dieu, l'acceptation de la parole de Dieu, je ne crois pas en la conversion de chrétiens qui ne croient pas en la parole de Dieu ou qui ne pensent pas devoir y obéir. Je crois que toute réelle nouvelle naissance s'opère en partie par la vie de la parole de Dieu. D'ailleurs, pour comprendre la Bible, il faut être régénéré. Et c'est l'un des signes. Quand quelqu'un veut prendre son baptême, souvent je me renseigne de savoir si la personne comprend la parole de Dieu. Ah, pas tout, bien sûr. Mais si d'un coup ce livre n'est plus fermé, ce livre s'ouvre, ce livre devient vie, alors il y a là une indication importante. Quelqu'un qui est régénéré est régénéré par la parole de Dieu. Amen. J'espère que quand vous lisez la parole de Dieu, ce soit vivant pour vous. Sinon, vous avez peut-être besoin de la régénération de cette parole. Et si vous la lisez avec un cœur ouvert, vous ferez une expérience puissante, celle de la nouvelle naissance. Alléluia. C'est une parole vivante, pas magique. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'ouvrir et puis il va se passer des choses. C'est une parole vivante où celui qui vraiment incline son cœur, Dieu se révèle à lui. Elle lui donne la vie. Alléluia. Vivante et permanente, ça veut dire que la parole de Dieu, elle est permanente, elle ne bouge pas. On essaye aujourd'hui de traduire des textes ou de les commenter pour les adapter à notre société actuelle. Mais la parole de Dieu, elle est vivante et elle est permanente. Elle est éternelle. Elle n'a pas besoin d'être modifiée. Il y a une permanence en elle-même. Sinon, elle ne serait pas la vérité. S'il fallait l'adapter, c'est qu'elle n'était pas si vraie que cela. Mais nous croyons en réalité que la parole de Dieu est vivante et permanente. Vous avez remarqué que cette vie de la parole nous permet d'avoir un amour fraternel sincère. C'est au verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Moi, je crois que c'est impossible de s'aimer sincèrement dans l'Église s'il n'y a plus ce travail de la parole de vérité. Ici, ce que je lis, c'est que c'est quand on obéit à la vérité, on est capable d'aimer sincèrement. Si on ne sait plus aimer sincèrement, alors on peut se demander si l'obéissance à la vérité existe encore. C'est l'obéissance à la vérité qui amène à l'amour fraternel sincère. Le travail de la parole de Dieu, si elle est toujours acceptée, si on veut toujours y obéir, nous conduira dans cet amour fraternel sincère. Hein, on ne va pas s'aimer les uns les autres en se disant, bon allez, il faut essayer d'eux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut plutôt toujours se laisser touchés par la parole de Dieu. Parce que l'Église, ce n'est pas un club de copains ou de copines, hein. C'est beaucoup plus que cela. Ce sont des gens qui veulent glorifier Dieu et qui sont frères et sœurs parce qu'ils ont le même Père. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, nous pouvons lire ensemble cet autre passage sur la parole vivante, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Cette semaine, je lisais un ouvrage sur l'Apocalypse et le frère commentait les 7 messages adressés aux églises. Et le Seigneur avait des flammes de feu dans les yeux, comme pour nous dire qu'il sait, qu'il voit tout. Et à chaque fois, le Seigneur dit où en est l'Église. Et ici, nous venons de lire... Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et cette semaine, je priais, fais-nous grâce. Parce que ce qui compte, vous savez, dans notre assemblée, c'est pas qu'on soit heureux d'être là ensemble. Où est-ce qu'on en est quand le Seigneur va revenir? Qu'est-ce que le Seigneur voit? Qu'est-ce que le Seigneur pourrait dire de nous? Il vient bientôt. Amen. Et c'est ça qui doit nous toucher surtout. Ce qui compte, ce n'est pas que l'Église nous corresponde, mais lui corresponde à lui. Amen. Ici, il est dit de la parole de Dieu vivante, efficace. D'abord, verset 12, il y a « car ». Car, ça veut dire que c'est la conclusion de ce qui précède. Et qu'est-ce qui précède? C'est le psaume 95 qui est cité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. C'est le psaume 95. Donc la parole de Dieu vivante et efficace, ici, c'est bien l'Écriture. Puisque c'est le psaume 95 que l'Épître aux Hébreux commente. On peut même penser d'ailleurs que ce verset 12 est la conclusion des 4 premiers chapitres, mais là n'est pas notre sujet. Alors, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante. C'est un avertissement. La parole de Dieu s'accomplit quand elle est promesse et bénédiction. Mais la parole de Dieu s'accomplit aussi quand elle est menace et avertissement. Parce que dans le psaume 95, c'est « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Donc la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, mais dans les deux sens. Vivante et efficace. Pour le bien, pour la bénédiction, mais vivante et efficace aussi pour son jugement. Et d'ailleurs, dans ce texte, il est question de cette œuvre de jugement de la parole de Dieu dans notre vie. Elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Quand nous nous sommes convertis, que nous avons été régénérés par la parole de Dieu nous a jugés. Elle nous a dit, tu es un pécheur, tu vas droit en enfer, tu as besoin de Jésus-Christ et de la grâce de Dieu. Et parce que la parole de Dieu nous a jugés, elle nous a sauvés. Alléluia. Il n'y a pas de salut sans jugement. Tous les prophètes enseignent d'abord à Israël que le jugement viendra et qu'après le Seigneur les sauvera. Il n'y a pas de salut sans jugement. Et c'est un principe qui est vrai pour tout au long de notre vie chrétienne. Il faut encore que l'Écriture et cette autorité, ce jugement dans nos vies, que Dieu nous juge encore par sa parole, afin qu'il nous sauve encore. Amen. Parce que Dieu ne nous juge pas pour nous perdre. Il faut que le jugement commence par la maison de Dieu. Et quelle sera la fin de ceux qui n'y obéissent pas? Si nous nous laissons juger, nous serons sauvés. Tous ceux qui n'accepteront pas le jugement de la parole seront perdus. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. elle sépare. C'est intéressant cela. Et cette semaine, quand j'ai été voir M. Bouchamy, j'étais étonné, j'avais ce texte sur le cœur depuis 15 jours à peu près. Je pensais même dimanche dernier l'apporter, mais j'ai une autre pensée qui s'est imposée. Et en visitant le frère, j'étais très étonné, il m'a parlé de ce texte. Il m'a dit, frère, vous savez, il faut aujourd'hui que la parole de Dieu fasse faire la différence entre des expériences émotives et des expériences du Seigneur. Elle doit faire la différence, elle sépare âme et esprit. Et c'est vrai que ce texte nous montre que la parole de Dieu va aller plus profondément dans nos vies. Elle va être capable de séparer, de différencier des choses qu'elles nous ne penserons pas, des choses que nous ne mesurons pas, que nous ne voyons pas. On a encore bien des choses à apprendre. Amen. À moins que vous êtes déjà arrivé. Mais en réalité, vous savez, nous on se trompe tous. On a besoin de la parole de Dieu pour nous détromper. La parole de Dieu pour faire une œuvre plus profonde et diviser, séparer, démarquer, juger. J'ai noté ceci, la parole perce cette cuirasse d'illusion, d'orgueil, de subterfuge, d'égoïsme, de mensonge dont l'homme s'enveloppe devant Dieu. Ce n'est pas de moi, je l'ai recopié. Hein. Et c'est vrai que nous faisons souvent ce qu'Adam et Ève ont fait, on se cache. Mais heureusement, Dieu parle. Où es-tu, Adam ? Heureusement, Dieu parle. C'est sa parole qui nous sauve. C'est sa parole qui nous permet de sortir de notre cachette. Sa parole est lumière. Alors, ne vous étonnez pas si ces temps-ci, vous qui vous approchez peut-être depuis peu de temps, en lisant la parole de Dieu, vous vous sentez sale, vous découvrez des choses insoupçonnées dans votre vie, c'est bon signe. Alléluia. C'est bon signe. Quand Dieu vous reprend, quand Dieu vous montre ce qui ne va pas, c'est surtout pas pour vous rejeter. C'est bon signe, c'est que ça devient votre père qui vous éduque et qui vous remonte le bon chemin. Quand je me suis converti, j'avais vraiment ce sentiment-là que je devais tout réapprendre, tout. Parce que c'est une grande confusion aujourd'hui. Et déjà à l'époque, quand je m'étais converti, on appelait bien ce qui était mal, mal ce qui était bien. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous restructurer, nous reconstruire selon lui. Alléluia. Oui, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Vous pouvez essayer de vous changer, vous n'y arriverez pas. Mais lisez régulièrement la parole de Dieu et Dieu vous changera. C'est sûr et certain. La parole de Dieu, elle est efficace. L'Écriture, elle est insufflée de l'Esprit. On le lit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. C'est un texte incontournable de Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. Il est dit, « Toute écriture est inspirée, insufflée littéralement, on parle de la théopneustie de Dieu, est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Quand Paul l'écrit, il fait allusion à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est parole de Dieu. Alléluia. Comme le Nouveau Testament. Les deux sont la parole de Dieu. Alors, si vous ne connaissez pas la Bible, cela fait allusion à un texte dans lequel est décrit la création de l'homme. L'homme était comme de l'argile, il a été façonné. C'était de la terre, il a été façonné comme de l'argile plutôt, et il est devenu un homme. Mais c'était presque une statue de terre, inerte et sans vie. Alors Dieu a insufflé par son esprit la vie à Adam. Eh bien, dans la Septante, c'est le même mot qui est utilisé pour ici. Et cette parole, ben Dieu a insufflé la vie comme il a insufflé la vie à Adam. Il a donné vie à sa parole. Toute l'écriture est insufflée, est inspirée de Dieu. Alléluia. Alors elle est utile pour convaincre. Nous l'avons lu entre autres. Il n'y a pas que cela, mais ce serait trop long. Pour convaincre. Vous savez, aujourd'hui, quand le pasteur change d'église, l'église change d'avis. Bien souvent. C'est un drame. Où sont les convictions? Comment peut-on avoir des convictions? Par l'Écriture. L'Écriture est inspirée de Dieu pour convaincre. Convaincre. Vous ne pouvez pas vous nourrir des prédications. On n'a que deux réunions. C'est trop peu, c'est très peu. Le mardi soir et le dimanche matin. Vous vivez dans le monde tous les jours. Vous êtes envahi, pollué par toutes sortes d'idéologies, de grossièretés, de discussions. Vous ne pouvez pas vivre de prédication. Vivre d'Internet? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il était plutôt écrit que tout homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas qu'il sort d'Internet, excusez-moi. Non. Se nourrir de l'Écriture. Pour trouver des convictions. Vous savez, pour revenir sur Internet, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera d'accord avec vous. Il y a le choix aujourd'hui. Vous aimez quelque chose dans l'Église? Ben, vous inquiétez pas, vous trouverez quelques prédicateurs, et dont des grands noms, qui vous donneront raison. On trouvera toujours de quoi justifier ce que l'on aime et ce que l'on préfère. Mais ça, ce n'est pas la conviction de l'Écriture. On cherche des appuis humains. Rien ne remplacera le Seigneur, la prière, la parole avec Dieu. Bien sûr, il faut faire attention à cela, de ne pas devenir des pharisiens et d'avoir des convictions qui font du mal aux autres. La question n'est pas là. Il ne faut pas que les convictions nous fassent devenir agressifs ou violents. Mais nous avons besoin d'avoir des convictions de la parole de Dieu. Et de plus en plus, nous en aurons besoin parce que vous savez, beaucoup de choses changent. Et dans toutes sortes d'églises, il y a toutes sortes de pratiques et de choses. Et vous ne saurez plus où vous en serez. Et vous direz, pourquoi pas, et de pourquoi pas en pourquoi pas, vous serez très étonné de là où vous êtes arrivé. Ne pensons pas que nous sommes plus malins que les autres, plus forts que les autres. La séduction, elle est très forte aujourd'hui. Le seul moyen de résister à la séduction du diable, c'est de faire la même chose que le Seigneur a fait avec l'adversaire. Il est écrit. Et quand il l'a essayé, lui, d'utiliser la Bible, Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Alléluia. La conviction, toute l'Écriture est inspirée de Dieu pour convaincre. Si vous ne lisez pas régulièrement, est-ce que ce que je dis ce matin, ce n'est pas du tout pour vous culpabiliser, ça ne sert à rien cela. Hein, ça ne sert à rien. Mais c'est simplement pour nous aider à prendre en la mesure de là où nous pourrions en être. Ça fait peut-être des années que vous êtes chrétien ou chrétienne. Avez-vous déjà lu une seule fois toute la Bible? Je pense que si on faisait aujourd'hui un sondage dans les assemblées, on serait horrifié. Lire toute la Bible régulièrement en un an, ça demande un quart d'heure, 20 minutes par jour, 3 chapitres, un tiers. Si l'Écriture n'est pas notre fondement, nous n'aurons pas de conviction. Nous aurons une foi fragile, superficielle. D'ailleurs, au chapitre 4, un peu plus loin, il est dit, prêche, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ça veut dire que des fois, dans l'histoire de l'Église, il y aura des moments où on voudra un peu moins l'Écriture. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Quand on vient au culte, aux réunions, ou quand on lit la Bible, nous avons besoin certainement des promesses de Dieu. Mais regardez ce qui est écrit. Reprends, censure, exhorte. Nous avons vraiment besoin que l'Écriture nous rectifie. Amen. Dans un contexte où les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable. Que Dieu nous donne la grâce d'avoir encore l'amour de la vérité pour ne pas chercher dans l'Écriture toujours des confirmations, des consolations, des directions, mais plutôt des avertissements, des reproches, des censures, des rectifications. Amen. Nous ne sommes pas des grands, nous sommes encore des enfants. Amen. Quand on est grand, on se dit à un moment donné, vous vous rappelez quand on était enfant, surtout adolescent, on se disait, ah vivement que je sois adulte, hein. Quand je serai adulte, je ferai ce que je veux. On ne savait pas ce que c'était que d'être adulte en fait. Mais on s'imaginait que d'être adulte, c'était enfin faire ce qu'on veut et puis obéir. Mais vous savez, dans le Seigneur, il n'y a personne qui est grand. On est tous des petits enfants. Et on doit toujours, encore, être éduqués. Et que le Seigneur nous dise ce dont nous avons besoin. Amen. Alors, un texte qu'il faut bien comprendre, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Quand il est écrit, bon, on ne va peut-être pas le lire, « La lettre tue, l'esprit vivifie ». C'est dans 2 Corinthiens 3, 6. Alors, j'ai déjà entendu plus d'une fois, « Oh, la Bible, vous savez, la lettre tue, l'esprit vivifie ». Bon, ceux qui disent ça ne connaissent pas bien la Bible. Parce que ça ne veut pas du tout dire ça. La lettre tue, alors je passe vite, mais on pourra en discuter en aparté, ou lire vous-même, réfléchir vous-même. Je préfère encore bien mieux cela. Chez vous, relisez 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, c'est toute une démonstration sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et la lettre tue, en fait, c'est la lettre de la loi. Ce n'est pas la lettre de l'Écriture, c'est la lettre de la loi. La preuve, c'est que tout au long de ce chapitre 3, Paul utilise l'Écriture, il parle de Moïse qui descendait de la montagne, qui voilait son visage. Tout le chapitre 3 repose sur l'Écriture. Et quand Paul dit « la lettre tue, l'esprit vivifie », il veut dire « l'ancienne alliance tue, la nouvelle alliance donne la vie ». En gros, c'est cela. Donc non, l'Écriture n'est pas une lettre qui tue, l'Écriture est parole vivante. L'Écriture est parole du Saint-Esprit. Alléluia. Parole qui donne la vie. Gloire à Dieu. L'Écriture, c'est l'épée de l'esprit. Et je crois que l'expérience que l'on veut rechercher, et c'est inquiétant parce que j'entends de plus en plus qu'on va dans des rassemblements pour y trouver là comme des prophètes et des choses sensationnelles. L'expérience sans une vie bien enracinée dans l'Écriture, devient dangereuse. On ne doit pas rechercher, les frères nous disaient autrefois, ça fait longtemps qu'on ne l'entend plus, on ne doit pas rechercher les dons, on doit rechercher le donateur. Amen. C'est Dieu qu'on recherche, ce n'est pas une expérience. C'est lui que l'on veut trouver. Amen. Alors, mon dernier point sera bien accueillir la parole de Dieu. On lit dans Actes chapitre 8, verset 30, s'il vous plaît. Actes chapitre 8, verset 30. Actes chapitre 8, verset 30. Verset 30 à 35. Philippe accourut, Actes 8, 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Donc ça veut dire qu'il lisait à haute voix. Hein. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Vous avez remarqué l'humilité de cet homme ? Vous vous rappelez qui il est ? Il est ministre. C'est un haut personnage. Donc il avait joui d'une éducation. Il avait une formation probablement intellectuelle. Il était d'un haut rang. Mais il dit, comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'aide? C'est beau. Quand on est dans des dispositions pareilles, mais forcément on va apprendre. Le meilleur élève, c'est peut-être pas le plus compétent. C'est peut-être celui qui a le plus soif de savoir et de connaître. Pas là le nu-éthiopien qui dit, mais s'il n'y a personne qui m'aide, je ne peux pas. On comprend pourquoi le Saint-Esprit a conduit Philippe jusque chez cet homme qui lisait à haute voix. C'est peut-être un bon conseil. Vous qui peut-être lisez la Bible depuis peu, vous pouvez la lire à haute voix. Parfois, quand on la vit à voix basse, on n'arrive pas toujours à bien se concentrer. Parfois, la lire à haute voix, plusieurs m'ont déjà dit que ça les aidait. Peut-être pas vous, mais peut-être vous, essayez, vous verrez bien. Lisez à haute voix, et cela vous aidera peut-être même en entendant des fois, on comprend mieux qu'en pensant. Alors, il lit à haute voix et il est conduit, il est guidé. Je pense que il est bon dans l'apprentissage de la parole de Dieu d'accepter les conseils, les explications. Et ça fait partie d'une des raisons, c'est pas la seule, de la valeur de l'Église. Vous venez dans l'Église pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. La prédication de ce matin a pour but, entre autres, de vous aider à comprendre la puissance, l'efficacité, l'importance de la parole et d'y être amené à mieux la comprendre. L'Église est nécessaire. Il n'y a personne qui peut comprendre tout seul tout. Ça, c'est faux. De dire, moi, il n'y a que le Seigneur qui me parle. Moi, je comprends la Bible, mais c'est que moi qui la comprends. Ça, c'est faux. Il n'y a personne qui comprend tout seul. Moi-même, j'ai beaucoup appris de mes pères qui m'ont formé dans le ministère. J'ai beaucoup appris des frères et sœurs dans l'Église. Je lis beaucoup et j'apprends encore beaucoup aujourd'hui parce que je crois que il y a encore beaucoup à découvrir de l'Écriture grâce aux autres. Pour recevoir la parole de Dieu, il faut avoir de l'humilité. Et pas se dire, de toute façon, moi, je sais. Ils ne savaient pas. Voyons maintenant l'exemple des Béréens, c'est acte 17. Un exemple bien connu, acte chapitre 17, verset 10. Acte 17, verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Alors c'est écrit, plusieurs d'entre eux crurent. Alléluia. Vous ne trouvez pas que souvent on se rappelle des Béréens qu'ils examinaient pour vérifier? Mais c'est pas ce que la Bible dit avant tout. Qu'est-ce qu'elle dit avant? Il est dit, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Amen. Parce qu'il y a vérifié et vérifié, vous savez. Ils ne vérifiaient pas pour s'opposer. Ils ne vérifiaient pas pour contredire. Ils recevaient, ils avaient des sentiments plus nobles. Vous savez, contredire, ce n'est pas avoir de nobles sentiments. Hein. S'opposer, ce n'est pas avoir de nobles sentiments. Ils avaient des nobles sentiments dans le sens qu'ils étaient réceptifs, ouverts. Et pour eux, c'était énorme. Parce que vous savez, on ne mesure pas, nous, qui sommes chrétiens d'origine païenne et en 2023, on ne mesure pas. Mais à l'époque, dire aux Juifs que Jésus était le sauveur du monde, qu'il avait été crucifié sur la croix et qu'il était Dieu fait homme, ben franchement, c'était plus qu'une nouveauté. Pour beaucoup d'entre eux, c'était un blasphème. Le message de Paul, il était énorme à entendre pour eux. Mais ils l'ont reçu avec beaucoup d'empressement, en s'appuyant, en vérifiant dans les Écritures. Alléluia. Quelle belle disposition. Amen. Je pense qu'il est bon, effectivement, les uns et les autres, de lire la parole, de vérifier, mais toujours dans l'accueil de la parole de Dieu. Amen. Ils accueillaient la parole, et dans cet accueil de la parole, eh bien, ils acceptaient cette nouveauté. Quand on entend quelque chose de nouveau pour nous, ce n'est pas forcément tout de suite parce que c'est faux. C'est peut-être tout simplement parce qu'on ne le savait pas. Vous voyez, quand on entend une explication d'un texte de la parole de Dieu, on peut se crisper et se dire « Ah non, moi j'ai jamais entendu, j'ai jamais compris ça comme ça, c'est faux. » Ou on peut, au contraire, ouvrir son cœur et vérifier, réfléchir dans les Écritures, comme les Béréens pouvaient le faire. C'est bien différent de ce que l'apôtre Paul dit à Timothée au sujet des disputes de mots. Et ce qui est terrible, c'est que l'histoire de l'Église est parsemée de divisions au nom de la Bible. Si la Bible, il ne faut pas utiliser la Bible pour taper sur l'autre. La Bible, ce n'est pas, c'est pas un instrument de dispute. Ce devrait être au contraire un outil d'édification. Qu'il serait bon entre nous de parler, de méditer la parole de Dieu. Amen. Ne trouvez-vous pas parfois que nos conversations manquent de l'Écriture entre nous? Bonjour, bonsoir, la semaine a été. Nous avons parfois des relations un peu superficielles. Ce serait tellement bon d'avoir des relations enracinées dans l'Écriture et dans le Seigneur, sans se disputer, sans pinailler, sans vouloir avoir raison ou aimer contredire, mais dans l'amour fraternel et l'amour de la vérité, se faire du bien en partageant. J'ai compris ça dans la parole. Alléluia. Cette semaine, j'ai lu le Lévitique. C'est un livre qui était toujours difficile pour moi, mais j'ai découvert par le Lévitique la valeur du sang. Alléluia. Entretenez-vous, c'est écrit entretenez-vous. Je ne crois pas que c'est que pendant l'heure officielle de la réunion. Je crois que c'est dans le temps où nous sommes ensemble. Nous pourrions avoir d'autres conversations, des conversations nourries de la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas parce que je dis qu'il faut se forcer de le faire. Ça va faire faux, ça ne marchera pas. Hein. Je pense que c'est plutôt, quelque part, le reflet de ce que nous sommes. Il faut que nous, chacun individuellement, soyons travaillés, labourés par cette parole, qu'elle soit notre vie. Et alors nous en partagerons, nous en parlerons ensemble, automatiquement. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, voilà ce qui est dit. 1 Thessaloniciens, vous pouvez bien lire avec moi, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Ce texte parle de l'efficacité de l'Écriture qui agit en vous qui croyez, mais dans un contexte de bon accueil. Vous avez reçu cette parole comme la parole de Dieu. Voyez, l'efficacité de la parole de Dieu dépend de nos dispositions de cœur à la recevoir. Si nous considérons que vraiment l'Écriture, c'est la parole de Dieu, elle agira en nous qui croyons. Automatiquement. Amen. Dans une même réunion, ce qui est curieux, c'est que à la fin de la même réunion, des chrétiens vont dire « Oh, j'ai rien reçu. » Et d'autres diront « Oh, le Seigneur m'a parlé. » C'est bizarre. Et même nous, des fois, on entend, puis on ne reçoit rien. Puis après, on discute avec quelqu'un, on voit que ça, la parole lui a fait du bien. Oui, que le Seigneur nous donne toujours un cœur bien disposé pour considérer la parole. Si nous la considérons, elle agira en nous qui croyons. Amen. Et c'est la parole qui compte, c'est pas le prédicateur. C'est la parole qui est annoncée. Un dernier texte, Jacques chapitre 1er, verset 16, pour terminer, Jacques chapitre 1er, verset 16, Jacques 1, 16. Je connais un mouvement évangélique, ils ont pour principe que toutes leurs prédications, ce sont des livres ou des textes qui sont lus et qui sont expliqués au fur et à mesure. Et ils ne font pas de prédication sur un thème, comme là ici, ce matin, c'est sur un thème, parce qu'ils disent qu'il n'y a rien de mieux que l'explication de l'Écriture à l'Église. Je crois beaucoup en cela. Je crois qu'en réalité, parfois, on veut entendre des choses spéciales, mais rien ne pourra remplacer la lecture et la compréhension de toute l'Écriture. Jacques chapitre 1er verset 16, ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait viennent descendre d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pas rien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Quel beau passage sur l'accueil de la parole de Dieu. Un préalable, celui du verset 21, rapidement, il est question de souillure et de méchanceté. Pour être en bonne condition, pour que la parole de Dieu soit vivante et efficace, au point de nous sauver même, il faut être purifié de la souillure et de la méchanceté. Si dans notre cœur, il y a de la souillure ou de la méchanceté, nous ne sommes plus dans les conditions pour recevoir la parole. C'est écrit. Elle ne nous parlera plus. Voilà. Et là, il y a fort l'accent sur la colère, d'ailleurs, dans ce passage. Et la colère est à la fin de celui qui n'est pas lent à parler. Hein. Prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, méchanceté, souillure, après c'est écrit au verset 21, recevez avec douceur. Une fois qu'on est débarrassé de la souillure et de la méchanceté, on peut recevoir avec douceur, avec humilité. Que Dieu nous donne un cœur bien disposé pour que sa parole puisse sauver nos âmes. Amen. Enfin, il est dit ici que celui qui aura persévéré... Alors, plonger ses regards, déjà, c'est pas lire vite fait. Excusez-moi, je vais peut-être m'attirer un petit peu la vindicte, mais vous savez, moi, ça me gêne dans le portable, on fait ça. Dans le portable, on a tout, on a la Bible. On a la parole de Dieu avec tout le reste. Puis on a des fois des messages, voilà. Alors, des fois, ça peut être pratique, hein. Je suis pas à 100% contre, je dis pas ça. N'utilise pas ce que je dis pour dire, de toute façon, même ça, il veut pas, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est plonger ses regards dans la loi. C'est autre chose que ça. C'est prendre la parole écrite. C'est se tenir devant Dieu. C'est lire en cherchant le Seigneur. C'est lire pour entendre le Saint-Esprit. C'est lire pour comprendre sa volonté. Plonger ses regards dans la loi parfaite. Alléluia. Plonger ses regards. Et après, il dit qu'il aura persévéré. Parce que c'est vrai que la parole de Dieu, elle est efficace, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas magique. C'est pas parce que vous allez lire un passage sur même quelque chose qui vous concerne. Parfois, vous serez peut-être dans un moment où, ben là, par exemple, on a lu sur la colère. Vous êtes dans un moment où vous êtes en colère. Bon, on a lu ce passage, mais des fois, ça arrive. On fait des expériences glorieuses avec le Seigneur. Paf! Ça s'en va. Alléluia! Mais c'est pas toujours comme ça. Parfois, on lit, on se dit, mais Seigneur, comment ça se fait? J'ai lu ta parole et mon cœur est encore dur. Eh bien, ce qui aura persévéré. Qui aura persévéré. Pourquoi il faut lire tous les jours la parole de Dieu, et idéalement plusieurs fois par jour? Parce que c'est dans la persévérance, dans l'écriture, que nous serons délivrés du mal. Alléluia. Qui aura persévéré, qui n'aura déjà pas oublié ce qu'il a vu, mais qui non seulement ne l'oubliera pas, mais lâchera pas l'affaire. Il persévérera dans la parole, et alors il sera heureux dans cette activité. Alléluia. Dans cette activité. Pour terminer, je vous citerai le psaume 119, 105. « Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. » Alléluia. Comment être dirigé dans la vie? Un songe? Une réunion qui va tout définir? Parfois, il y a des choses qui me font peur. J'ai vu dans des week-ends de jeunesse, on imposait des mains à des jeunes et on leur disait tout ce que serait leur vie. Tu seras ceci, tu seras cela, tu vas devenir ça. Alors tout le monde est content, on dit ça a été magnifique, il y a eu plein de jeunes appelés au ministère. Ah oui? Moi je connais plein de ces jeunes-là à qui on a dit ça, qui aujourd'hui n'ont jamais été dans le ministère. Et certains même ne sont plus dans l'église. C'est comme ça qu'on doit être conduit? Non. C'est la parole de Dieu qui est une lampe sur notre sentier. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous diriger. Pourquoi est-ce qu'il faut lire tous les jours la parole de Dieu? C'est parce que je ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire. Dirige-moi par ta parole. Alléluia, Dieu soit béni. Ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. Les frères disaient de ce sujet-là, c'est une lampe aux pieds. Ça veut dire que on peut pas voir très loin, en fait. Comprenez? Il faut aller pas à pas, guidé par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà quelques réflexions. Je crois aux prophéties. Je crois que le Seigneur peut parler très clairement à quelqu'un. Je crois aux songes. Mais je crois que toutes ces choses-là, ce sont plutôt des interventions exceptionnelles de Dieu. Je crois plutôt qu'il nous faut quotidiennement, tous les jours, avoir une vie fondée sur l'Écriture. Amen. Et je vous encourage de tout mon cœur à connaître cette parole vivante et efficace. Amen. Peut-être ces derniers temps, vous ne la lisez plus beaucoup. Là, c'est les vacances. Vous allez être en vacances. Ben, des fois, on se dit, ah ben, ça va être l'occasion. Et parfois, dans les vacances, c'est pire que, hein, parce qu'on n'a plus nos repères, il faut qu'on aille là-bas, faut... Ne vous relâchez pas, utilisez les vacances pour peut-être avoir plus de temps pour lire la parole. Alléluia. On n'est pas obligé de partir à 6 heures du matin, tous les jours, en vacances. Vous pouvez peut-être plutôt vous dire, ben, je vais partir un peu plus tard parce que je vais d'abord prendre du temps avec la parole de Dieu. Alléluia. Puis dans la vie tous les jours, avec votre âge, je sais qu'on a une vie très active, c'est compliqué, mais demandez au Seigneur sa grâce pour trouver un peu d'équilibre et afin d'avoir du temps pour vivre par sa parole. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Amen.